bonsoir. Vous êtes bien sur Genrage, l'émission féministe lilloise d'RCV. Pour cette 8e émission, nous allons aborder deux sujets principaux. En première partie, on va aborder le lien entre geek et sexisme, geek et féminisme, critique féministe du monde geek, enfin, selon l'expression qu'on pourrait donner. Et en deuxième partie, on aura une chronique cinéma. Donc, tout d'abord, Zab et Anaëlle, qui est notre nouvelle co-équipière ou co-laboratrice ou co-je ne sais quoi, qui est là avec nous et qui anime l'émission. Donc Zab et Anaëlle parleront d'un article de Anita Sarkeesian, qui est une féministe américaine spécialisée dans les questions genrées dans la pop culture et qui a créé une chaîne appelée Feminist Frequency. Ensuite, elles aborderont un article écrit par Marlard sur Lara Croft, Tomb Raider. Et ensuite, elles aborderont un nouvel article « Pourquoi notre communauté est malade et comment y remédier ?» Et enfin, un dernier article appelé « Effet de genre, le paradoxe des études informatiques ». Donc il sera question principalement des représentations genrées dans le monde geek, dans les jeux vidéo, dans les animés et à la fois dans le monde du travail, c'est-à-dire parler division sexuelle du travail et de manière générale sexisme sur la toile. Ensuite, en deuxième partie, on abordera trois critiques de films. Donc, le premier, ce sera Free Angela and All Political Prisoners, qui est sorti en avril 2013 et qui retrace le parcours d'Angela Davis et ses difficultés avec l'État américain. Ensuite, on parlera de Paris is Burning, de Jenny Livingston, qui est d'un film qui est paru en 1990 et qui porte brièvement sur les bals de nuit des gays noirs américains et femmes transgenres et transsexuelles noires américaines. Et enfin, en dernier film, on abordera Les Invisibles, qui est sorti fin 2012 de Sébastien Lifshitz et qui porte concrètement sur vécu homo, gay et lesbien dans les années 70, justement au moment des années des mouvements politiques de libération sexuelle et des minorités de coming out politique des minorités sexuelles, et justement en quoi donc ce parcours, ce vécu gay et lesbien est un peu alternatif vis-à-vis du récit national de ces coming out politiques. Donc voilà. Donc bon, programme chargé. Donc on entame directement avec une petite musique.
Pour commencer, on va vous proposer d'aborder donc c'est pas un article en fait, c'est un documentaire, c'est un mini documentaire en fait qui est proposé par Anita Sarkeesian, qui est donc féministe américaine spécialisée dans l'étude des représentations genrées dans la pop culture, qui a créé une chaîne qui s'appelle Feminist Frequency. Au travers de laquelle elle propose des vidéos relativement courtes d'une vingtaine de minutes qui proposent des analyses sociologiques des médias et des industries culturelles différentes qui font partie de la pop culture au travers du prisme du genre. en gros, pour résumer un peu ces vidéos. Donc, c'est des vidéos qui sont très ludiques et très intéressantes, qui sont généralement sous-titrées. Là, en l'occurrence, donc, c'est une, enfin, le mini-documentaire donc dont on va parler parle des représentations des héroïnes dans les jeux vidéo. Et donc d'un phénomène que Anita Sarkazian a appelé « damsel in distress », qui peut être traduit tout simplement par « demoiselle en détresse », vu que c'est une traduction du français, et qui en gros désigne la manière dont laquelle les personnages féminins dans l'industrie du jeu vidéo de manière générale, et cinématographique aussi, est placée dans une situation dans laquelle elle ne peut pas se défaire sans l'aide d'un personnage masculin, et qui généralement présente un certain intérêt pour le héros, puisque c'est soit sa femme, soit sa petite amie ou une femme qu'il courtise. Donc c'est une manière aussi de gagner ses faveurs en gros en la sauvant des mains d'un monstre ou de la sauver d'une situation dont elle peut pas sortir toute seule. Donc en gros, elle explique comment son documentaire est super intéressant. Elle explique comment c'est une thématique qui est née dans la Grèce antique et qui nous renvoie au mythe de Persée. Donc pour information, Persée, c'est ce personnage qui a sauvé Andromède des griffes d'un monstre de mer. Donc Andromède qui avait été enchaînée nue à un rocher, et après l'avoir sauvée, en gros, elle est devenue sa femme. Donc ça, c'est directement ça vient directement de la mythologie grecque. Et c'est une thématique qui a alimenté une grande partie de la littérature médiévale, avec toutes ces histoires de chevaliers les chevaliers de Lancelot et autres histoires de ce genre qui tombent amoureux d'une femme et la sauvent, et voilà, ça termine bien et ils terminent ensemble en gros. Et à partir de cette même thématique et de cette même thématique donc de la femme en détresse que doit sauver un homme qui se montre héroïque. Donc cette thématique a aussi alimenté une grosse partie de la production cinématographique du XXe siècle, notamment des films comme King Kong qui mettent en scène donc une femme qui est kidnappée par un monstre, en l'occurrence un singe géant, et qui est sauvée par un homme. On pense notamment à des dessins animés comme Popeye qui est l'archétype de l'homme viril qui doit sauver Olive des mains d'un kidnappeur. On pense à Minnie qui est sauvée par Mickey dans plusieurs épisodes aussi. Et enfin, c'est une thématique qui a, en quelque sorte, qui s'est introduit aussi dans l'industrie du jeu vidéo, avec notamment le premier jeu vidéo qui s'est diffusé de manière internationale, on va dire, celui de Mario, donc, dans lequel il sauve la princesse Peach des griffes de Donkey Kong. Donc en gros, Anita Sarkazian explique comment finalement, à partir de cette thématique de la demoiselle en détresse, s'est construit tout un schéma dans lequel le héros doit la sauver, et qui est un schéma qui est généralement reproduit dans d'autres jeux vidéo. Là, en l'occurrence, dans celui de Mario, elle explique que pour elle, Peach représente la quintessence du personnage de la demoiselle en détresse. Et parce que de manière, enfin, en gros, si on revoit un peu tous les jeux vidéo qui ont été produits à partir du personnage de Mario, en gros, à chaque fois, la finalité de ses aventures est le sauvetage de la princesse. Qu'il courtise ou dont il essaie de s'attirer les faveurs. Et en gros, elle explique comment finalement, même si c'est un personnage qui apparaît dans d'autres jeux vidéo liés aux personnages de Mario comme Super Mario Kart, Super Mario Tennis, Super Mario Bros, etc., dans lequel elle est un personnage jouable, elle reste écartée du cœur des jeux qui sont donc les aventures de Mario, dans lequel elle reste un objet sur lequel on agit et qui est pas un sujet qui agit dans le jeu. Et donc elle explique comment, à partir de ce schéma, finalement l'industrie du jeu vidéo s'est construite. Et donc elle parle d'autres jeux vidéo, notamment Zelda, Sonic, Fox, etc. Donc qui sont tous des jeux de Nintendo, de Sega. Et par exemple, elle parle de donc en parlant de Zelda, elle explique comment finalement c'est un personnage qui a donné son nom à un jeu qui dont elle n'est même pas l'héroïne. Puisque et comment finalement ce personnage qui est comme c'est une enfin on peut faire une comparaison directe avec Mario et le personnage de Peach puisque finalement dès le départ elle est à chaque nouvelles aventures de Link qui n'est pas parce que le personnage principal c'est pas Zelda c'est Link comment finalement elle est kidnappée dès le début du jeu ou presque par le méchant qui est donc Ganondorf et elle attend d'être sauvée par Link après bon elle nuance un peu ses propos parce que finalement la princesse joue certains rôles un peu plus améliorés dans certains épisodes, on va dire, de Zelda. Par exemple, dans Ocarina of Time, elle réussit à échapper à Ganondorf en se cachant et en gros, elle se travestit, elle prend une forme d'homme qui s'appelle Shake et elle devient un allié dans l'aventure de Link. Ou dans Wind Waker où elle joue le rôle d'une petite princesse. Seulement, dès qu'on découvre finalement sa véritable identité de princesse, elle est soit kidnappée directement par le grand méchant, soit on lui dit que du fait de son statut de princesse, elle peut plus en gros participer à sauver le monde avec Link. Donc voilà, en fait, c'est une petite vidéo qui est très intéressante. Et qui retrace un peu, qui analyse un modèle qui est très récurrent dans le jeu vidéo, qui est celui du héros qui sauve la princesse et qui participe à une représentation des femmes dans des histoires où elles sont pas des sujets agissants, mais des sujets sur lesquels on agit. Donc qui de nouveau qui correspond avec un pôle, disons, passif de la femme, voilà. En gros, donc c'était un article très intéressant. Et pour information, Anita Sarkeesian, c'est une féministe dont on parle de plus en plus, qui commence vraiment à... Enfin, c'est pas qu'elle commence à percer dans le milieu féministe et dans le milieu geek, mais elle s'est attirée pas mal des foudres de la communauté, on en reparlera juste après. Je vais laisser la parole à Naëlle.
Bonsoir. Donc, moi, je vais évoquer un article de Marlard, donc qui est un article en réponse à un article paru dans Joystick, qui est un magazine de jeux vidéo. Article dans Joystick qui a été écrit concernant le dernier jeu en date de Tomb Raider. Dans ce jeu, il est sous-entendu au tout début du jeu vidéo donc, que Lara Croft a été victime de viol. Alors ce viol est sous-entendu parce qu'il n'y a jamais de scène de viol à proprement parler, mais on la voit attachée et subissant les sévices de jeunes hommes, plusieurs d'ailleurs. On l'entend gémir apparemment, donc il y a une bande-son quelque peu perturbante sur le jeu vidéo. Et donc le journaliste de Joystick qui parle de ce nouveau jeu n'utilise jamais les termes de viol. Il utilise entre autres les termes de tension sexuelle malsaine, ce genre de choses. Et donc omet complètement le crime dont il est question. Et donc Marlard s'attaque à cet article justement parce qu'elle est complètement outrée par ce que peut écrire le journaliste. Alors il y a des citations assez éloquentes dans l'article en question. J'en ai relevé une qui dit donc « Faire subir de tels supplices à l'une des figures emblématiques du jeu vidéo, c'est tout simplement génial. Et si j'osais, je dirais même que c'est assez excitant. » Donc ça c'est le journaliste de Joystick qui l'écrit. Ça montre bien que Tomb Raider, qui est quand même un des personnages phares du jeu vidéo, un personnage très célèbre, on voit bien quelle place elle peut occuper dans l'imaginaire masculin. Parce que justement, donc, elle est habillée très court dans les jeux vidéo, etc. Elle est aussi, c'est aussi une femme forte qui sait se défendre plutôt bien, même d'ailleurs. Et là, le fait de la voir victime de viol au début de son aventure, donc quand elle est toute jeune, elle a 21 ans, quand elle est victime de ces viols-là, parce qu'il y en a plusieurs, et ces viols, d'après ce qui est expliqué par le créateur du jeu, c'est ces viols ou ces sévices sexuels qui sont à l'origine du fait qu'elle devienne justement ce personnage phare et ce personnage féminin très fort, presque castratrice des personnages qu'elle rencontre dans le jeu. Et donc le fait que Lara Croft soit devenue comme ça un personnage si fort et phare, le fait que ça vienne d'un viol qu'elle ait subi, au lieu de révolter les gens, enfin, c'est quand même une idée assez particulière de la faire se placer comme étant victime d'un viol, au lieu de trouver ça révoltant, le journaliste en question, et je pense qu'il n'est pas le seul, loue cette initiative. Et donc voilà, je trouvais l'article de Marlard assez... assez intéressant là-dessus. Alors je le résume brièvement parce qu'il est assez long, mais je vous invite à le lire. Et voilà, on parlera d'un autre article de Marlard tout à l'heure, c'est Zab qui le fera.
Peut-être l'article, on donnera le lien sur la page Facebook de Jean Rage et éventuellement même dans les explications, enfin dans le petit paragraphe qui suivra l'explication du podcast, comme on a l'intention de le faire, sur l'adresse du webzine, parce que là, est-ce que tu as sur toi les références éventuellement pour l'article ? C'est pas, enfin, je veux dire, c'est pas grave, de toute façon, on pourra les mettre après.
Alors, en fait, les articles, je les ai trouvés sur safetgenre.org, donc c'est un webzine ou un blog plutôt, qui est pas tenu par Marlard même, mais qui a diffusé ces articles-là. Donc, moi, c'est là-dessus que je les ai trouvés, donc on peut les trouver, ils sont directement accessibles, je crois que c'est les premiers articles qui apparaissent, mais j'ai pas les références des articles mêmes.
D'accord.
Alors moi, juste avant de faire une pause, j'aimerais bien juste revenir sur ce dont vient parler Anaëlle. En gros, enfin moi, c'est pas que je veux donner mon avis personnel. Je trouve ça révoltant. Je pense que je suis pas la seule. Mais pour recontextualiser un peu dans la thématique dont on traite ce soir, c'est un des phénomènes qui montre un peu, qui illustre un peu le climat ambiant. De tout ce qui est communauté et industrie du jeu vidéo. Lara Croft, c'est quand même un personnage dont le corps est hyper sexualisé qui est considéré, mais qui est pour autant qui est considéré comme un personnage de femme forte. Elle bute plein de gens en gros dans le jeu vidéo, et elle a plein de prouesses, elle fait plein d'autres prouesses, quoi, elle saute comme une malade, etc. Mais en gros, c'est pour illustrer un peu le climat ambiant qu'il y a, le sexisme qui sévit dans la communauté, dans l'industrie geek de manière générale, et d'autant plus dans les jeux vidéo. D'une part, on voit que cette sexualisation des corps féminins, particulièrement, et c'est une certaine manière de détourner l'attention sur le personnage en soi et la force qui traverse donc le personnage en détournant l'attention sur pas féminines mais son corps et ce qui fait d'elle une femme. Donc c'est une manière de marquer la différence qu'elle représente en tant que femme. Et en plus là, le fait d'expliquer en quelque sorte la manière dont elle a pu devenir la femme forte qu'elle est par un crime sexuel, je trouve ça complètement dingue. Et c'est une nouvelle manière de décrédibiliser un peu le personnage fort en soi, en lui donnant une signification qui est tout autre et qui est limite associée à une certaine forme de vengeance finalement, au lieu d'être tout simplement un autre personnage, une autre héroïne comme tout autre héros qui se bat contre d'autres personnes, quoi.
Ouais, voilà.
Ouais, vas-y, excuse-moi. Anaëlle.
Ouais, en fait, c'est tout toute son aventure, toute l'aventure qu'on a pu vivre avec elle au travers des jeux vidéo qu'on connaît, etc. On comprend avec ce nouveau jeu qu'en fait tout n'est que vengeance des sévices sexuels qu'elle a subis en étant plus jeune et avant d'être cette héroïne. Et ça peut aussi paraître, enfin pour les filles qui s'identifient à Lara Croft, parce que c'est quand même un personnage fort et phare et une femme de tête, etc. Pour toutes les joueuses qui s'identifient à Lara Croft, ça peut être aussi décevant là, d'être, enfin qu'elle ait acquis cette force justement parce qu'elle a été victime d'un viol. Alors c'est pas le discours victimisant habituel parce qu'elle s'en sort, mais elle s'en sort pas si bien que ça finalement, parce que sa vengeance n'a pas de fin finalement. Donc
en plus, ce que je trouve très problématique, pour rebondir par rapport à la question du récit du viol et comment est-ce que finalement le viol devient partie d'un récit de femme, comme si c'était spécifiquement donc un récit de femme. Bon, ça, enfin bon.
Et dans les pratiques, coup, ça l'est. Oui,
dans les pratiques, voilà. Mais en fait, d'une certaine manière, l'essentialisant presque, en le naturalisant, en le hissant au statut de événement originel, quoi. Comme si à l'origine il y avait le viol et à partir de ça. Aux femmes de se construire à partir de ça, etc. Et du coup, c'est un
élément fondateur de son identité.
C'est ça, en fait. Et c'est hyper paralysant, en fait, comme récit, parce que c'est donné un scénario hyper catastrophique et super pas du tout puissant, en fait, pour les femmes qui donc auraient de toute façon comme principal récit le viol comme événement de toute façon, voilà.
Oui, puis fondateur, juste, quoi. Ouais. Pour finir sur le sujet, pour rebondir aussi sur ce que tu dis, c'est aussi de dédramatiser le viol, parce que elle, finalement, on pourrait se dire qu'elle s'en sort plutôt bien parce qu'elle devient une femme forte et une femme de tête, en disant que, enfin, je trouve qu'il y a un côté dédramatisant du viol, en disant elle a subi un traumatisme, mais finalement elle en fait une force, et enfin c'est quand même. C'est quand même assez dérangeant aussi de baser sa force sur un crime sexuel comme ça. Enfin, moi, c'est aussi une partie qui me dérange. Peut-être que je l'exprime pas très bien, mais voilà, j'ai trouvé ça très intéressant parce que justement le sujet était révoltant. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus.
Ouais. Carrément. On va faire une petite pause. On va mettre une chanson de Aphex Twin qui est tout à fait en relation avec notre thématique de ce soir et qui s'appelle Pac-Man. Batman, eat them up, yum yum.
Yum, yum. miam.
Voilà, donc on est de retour avec l'article de Marlard, donc sexisme dans la communauté geek. Pourquoi notre communauté est malade et comment y remédier. Donc c'est un article qui est très très long qu'elle a publié donc sur Ça fait genre le 16 mars 2013. Donc Marlande qui finalement donc là en gros elle propose une critique on va dire systémique de la communauté geek. Mais dont elle se revendique aussi, c'est pas elle est pas à l'extérieur, c'est pas un personnage qui est en dehors de la communauté geek et qui la critique, c'est vraiment quelqu'un qui s'identifie à l'identité nerd et geek quoi, et mais qui critique justement le sexisme qu'elle a pu vivre, dont elle parle à la suite de l'article, et qu'elle perçoit à la fois dans les représentations genrées dans le jeu vidéo dont on a parlé avec Anita Sarkazian juste avant et dont Annel nous a parlé aussi avec Tomb Raider, même si c'était pas la finalité de l'article en soi. Et donc elle explique comment finalement ce sexisme s'exprime à travers les représentations genrées dans les vidéos. Donc je vais vous faire une petite citation que je trouvais assez intéressante. Quelle qu'en soit la raison, les jeux vidéo semblent avoir plus de difficultés à aborder le genre de manière mature que n'importe quel autre support, à l'exception peut-être des comics. Entre son exploitation intensive et peu subtile des fantasmes masculins, ses difficultés à mettre en scène un personnage féminin avec plus de profondeur que ses implants mammaires et ses représentations gamines de la sexualité, le média paraît empêtré dans une perpétuelle adolescence. Peut-être l'industrie entend-elle ainsi flatter ce qu'elle imagine constituer son public. Elle précise « imagine » parce que finalement dans son article, elle explique comment 47% des joueurs aujourd'hui sont des joueuses. Et finalement, comment l'industrie du jeu vidéo axe son marketing sur un certain public ciblé, donc qui est l'adolescent hétérosexuel blanc, mais où l'homme, mais le jeune homme donc hétérosexuel cisgenre est blanc, mais qui finalement ne reflète pas la réalité des usages des jeux vidéo, on va dire. Et donc, elle commence donc par analyser la représentation genrée dans les jeux vidéo. Donc, avec une héroïne qui est toujours super, hyper genrée, modélisée à l'image de Lara Croft dont on vient parler, mais aussi on pense aux personnages de Tekken, donc les personnages féminins qui ont des énormes poitrines et des corps avec des hanches larges et une taille fine, etc. Et qui sont à moitié à poil, comme d'hab. Les personnages de Street Fighter aussi. Pourtant, c'est des jeux dans lesquels le corps est très mobilisé puisque c'est des jeux de combat. On pense à d'autres jeux où, par exemple, comme donc World of Warcraft, où elle en parle pas en particulier dans son article, moi j'y pense, ou Guild Wars, où on peut à la fois incarner, donc qui sont des role-player games, dans lequel on peut à la fois incarner un personnage féminin ou un personnage masculin, et dans lequel finalement on trouve ou achète des armures pour pouvoir mieux se protéger des attaques. Et elle explique par exemple comment ces armures sont aussi modélisées de sorte à sexualiser le corps de la femme. Donc en faisant des armures qui protègent les seins, le cul et point barre, alors que les armures masculines sont des armures qui protègent le corps complet. On nuancerait juste l'article avec les contre-exemples de Samus Aran, dont elle parle aussi dans un autre article, qui est donc le personnage de Metroid, qui est une femme, mais dont on ne connaît l'identité de genre ou de sexe qu'à la fin du jeu, et qui dont le genre féminin est caché tout au long du, enfin caché, est-ce qu'il est dissimulé ou pas, on ne sait pas, mais en tout cas elle a une armure qui montre pas son sexe. Donc elle reprend aussi la thématique de la damsel in distress dont on a parlé juste avant, donc du personnage féminin comme objet sur lequel on agit et qui n'est pas sujet dans les jeux vidéo. Elle parle de l'hyper-virilisation des personnages masculins qui n'échappent pas au processus de genration, on va dire, avec les muscles saillants, la voix roqueuse, l'impassibilité, le stoïcisme, la barbe, les cicatrices, etc. À part le personnage de Mario qui est une version assez infantilisée mais qui a une moustache. Ou des personnages comme Link qui sont pas spécialement super virilisés. Mais on pense à tous les autres personnages tels que les combattants dans Street Fighter ou autres jeux du même genre. Ou dans World of Warcraft aussi par exemple. Où en gros tous les personnages masculins sont des tas de muscles et des hommes super virils. Et elle parle aussi notamment des lifting, donc d'une espèce d'accentuation de la sexualisation des corps et de la genration des corps au fil du temps, avec une meilleure qualité et une augmentation des pixels, donc. Et elle parle de carrément d'un lifting, donc elle prend l'exemple de Chris Redfield dans donc le protagoniste de Resident Evil, qui devient dans le cinquième opus un nouveau personnage super musclé. Elle prend également l'exemple de Prince of Persia, où le personnage devient hyper musclé d'un opus à l'autre. Et je vais reprendre un peu autre chose qu'elle dit à ce moment-là. Donc la manière dont ça pose problème finalement à la fois pour le public masculin et pour le public féminin, cette hypersexualisation des corps. Tout comme les bimbos hypersexualisés, elle s'adresse encore et toujours au public masculin, contribuant ainsi à faire des jeux vidéo un loisir peu attirant pour les femmes. Elle perpétue des idéaux masculins de virilité inatteignables, destructeurs et aliénants, pour les hommes comme pour les femmes. Pourtant, ça reste quelque chose, cette hypersexualisation qui est beaucoup plus mal vécue par les femmes de manière générale. On reviendra sur ce point-là juste après. Donc ça, c'était pour le sexisme qui sévit dans les représentations des personnages dans les jeux vidéo. Elle parle aussi de sexisme dans l'industrie, en remarquant notamment le harcèlement qui est vécu par certaines femmes à la fois dans les salons de jeux vidéo, comme le 3 qui est un super salon jeux vidéo, enfin un des salons les plus connus et les plus importants du jeu vidéo, dans lesquels il y a une espèce de mise en scène super hétérosexuelle des femmes qui deviennent des objets, enfin un peu à l'image des salons de l'auto, pour présenter les jeux ou les faire patienter en attendant. Et le mépris, elle note par exemple le mépris de certains gamers ou développeurs à l'égard d'autres gameuses ou des journalistes même spécialisés. Et le paternalisme dont ils font preuve à l'égard de ces femmes en disant en gros que elles sont pas là où elles devraient ou qu'elles sont pas capables de jouer. Je pense que tu avais une citation Annaëlle d'ailleurs qui reprenait ce sujet-là. Je sais pas si tu l'as devant toi.
C'est pas vraiment une citation. En fait, c'est une journaliste qui du magazine Kotaku. Je pense qu'on dit comme ça. Qui était présente à une très haute convention professionnelle de l'industrie, justement, et donc qui se met à un PC, qui commence à jouer, et qui a été questionnée sur sa présence par des responsables des relations publiques, d'éditeurs de jeux vidéo divers et assez connus, dont j'ai pas les noms, dont Marla ne cite pas les noms dans son article. Donc elle avait un badge, hein, PC Power Play, et ses responsables des relations publiques lui demandaient, la première question qu'il lui posait, c'est de savoir si elle jouait sur PC. Donc elle était quand même devant un ordinateur avec son badge, donc la journaliste a trouvé ça un peu idiot, mais elle a quand même répondu que oui, effectivement elle jouait sur PC. Ils lui ont posé d'autres questions comme ça sur sa présence, à savoir si elle jouait vraiment, si elle s'en sortait, etc. Pour finir, il y a un de ces personnes, un de, oui, de, un de ses responsables des relations publiques, qui lui dit, en gros, laissez-moi votre place, je jouerai mieux que vous, quoi. Je me débrouillerai mieux que vous.
Ouais, donc qui témoigne donc du sexisme dans l'industrie du jeu vidéo. Elle parle notamment aussi du sexisme qu'il y a dans la communauté. Donc elle donne les chiffres d'une enquête qui a été menée dans la communauté du gaming, à laquelle on posait deux questions. La première, c'est le sexisme est-il important dans la communauté du gaming? 79% d'hommes ont répondu oui et 85% de femmes également. Donc je pense qu'on est assez, tout le monde est relativement conscient à ce niveau-là. Il n'y a pas trop de, c'est pas un sexisme caché ou dissimulé. Et après il y a une deuxième question qui a été posée, c'est avez-vous déjà fait l'expérience de remarques sexistes lors d'une partie de jeux vidéo donc? Et à ce moment-là, on voit qu'il y a 15% d'hommes qui disent quand même oui, donc il y en a. Et il y a 62% de femmes, donc plus de la moitié, qui répond par l'affirmative. Donc on voit là aussi qu'il y a un sexisme qui sévit non pas seulement dans l'industrie et dans la représentation des personnages, mais aussi dans la communauté et qui défavorise les personnes qui souhaitent jouer et qui sont des femmes. Et il y a aussi un espèce de rythme qui est répandu, qu'elle synthétise de cette manière-là. Un mythe extrêmement répandu, délicieuse invention née de la rencontre entre la misogynie et le snobisme geek, la fake geek girl, la fille faussement geek. Et qui fait donc référence à, en gros, cette image de la fille qui se revendique geek et qui, en fait, n'y connaît rien. Qui en réalité qui est donc une espèce de création d'un mythe auquel s'attaquent certains gamers qui sont réticents à l'idée d'une féminisation, on va dire, du milieu, c'est-à-dire d'une entrée des filles dans le milieu, quoi. Donc c'est une autre manière d'exprimer le sexisme. à part ces milieux-là, il y a aussi le problème du marketing qui est ultra ciblé, dont on a déjà parlé. Avec le magazine Joystick, et elle parle enfin du traitement des femmes qui décident de parler de ce sexisme. Donc elle reprend notamment le cas de Anita Sarkazian dont on a parlé juste avant, qui à la suite de l'ouverture donc de la création de sa chaîne Feminist Frequency s'est retrouvée victime d'une campagne de cyberharcèlement dans laquelle les cybernautes lui envoyaient des dessins à caractère sexuel où elle était violée par des personnages de jeux vidéo, qui concernent aussi des trolling de photos d'elle, et la création, je me souviens, d'un programme qui permettait en gros de la tabasser. Et il y a aussi sa page Wikipédia qui a été vandalisée, donc qui est pas une forme de sexisme en soi, mais qui est une manière de dire finalement... En gros, que tout le monde est d'accord sur le fait qu'il y ait du sexisme, qu'il y ait énormément de sexisme dans le jeu vidéo et qu'il y a personne qui a envie que ça change. Donc après, c'est vrai que il y a certaines personnes qui s'indignent de ce genre de phénomène et qui sont aussi des personnages publics très connus et très qui ont de haute notoriété dans le monde geek, mais de manière générale, il y a quand même ce climat ambiant qui est assez réticent donc à la féminisation du milieu.
Pardon pour le micro.
Suzanne, je sais pas si t'aimerais revenir un peu sur ce dont on a parlé. Pas du tout.
Si, il y a des choses qui m'interpellent, mais je vais peut-être laisser la parole à Nel, puisque je crois que t'as un peu plus lu des trucs sur le sujet. Après, je pourrais commenter rapidement. Je sais pas si ce que.
Ben moi, je voudrais. J'avais juste un point. Enfin, juste pour poursuivre ce que t'as dit, Zab. C'était juste deux citations partielles d'ailleurs, parce que j'ai pas appris toutes les citations. Je les ai pas toutes notées textuellement. Une première citation de Fumito Ueda. Donc un directeur de de jeu vidéo, enfin, qui dit que dans son nouveau jeu, donc The Last Guardian, le héros sera plutôt un garçon. Parce que d'une part les filles portent des jupes et donc il craint un déplacement inapproprié de la caméra par les joueurs. Alors j'ai relevé cette citation parce que il y a deux points qui me posent problème. Déjà l'effet que les filles portent des jupes. On a gagné le droit de porter le pantalon depuis un certain moment et si comme il est dit plus tard dans une autre citation, il y a des phases sportives au jeu. Les filles seront certainement plus à l'aise en pantalon. Et deuxièmement, le déplacement inapproprié de la caméra par les joueurs, c'est quand même très dépréciatif pour les individus masculins qui jouent. Ça les met tous dans le sac des pervers qui regardent sous les jupes des jeunes filles. C'est quand même très dépréciatif pour eux aussi. Et la deuxième citation, donc justement, c'est qu'il y a beaucoup de phases d'escalade dans ce jeu-là et que les filles ne sont pas aussi fortes que les garçons. Donc voilà, je ne vais pas commenter plus loin cette citation parce qu'on sait aussi que ce n'est que de l'escalade et c'est un sport qui est accessible aux filles comme aux garçons.
Je t'interromps, oui. Une seconde, excuse-moi. Ces citations, elles viennent de l'article de Marlard, c'est ça ?
Oui.
D'accord.
Elles sont reprises dans l'article, mais c'est pas elle qui les fait. Enfin,
c'est les internautes.
Non, c'est un directeur, le directeur d'ICO et Shadow of the Colossus, et donc qui est créateur du jeu The Last Guardian, qui s'appelle Fumito Ueda. C'est lui qui fait ces citations-là, et c'est Marlard qui les reprend dans son article.
D'accord. Ok.
Et une deuxième citation, donc qui sont aussi reprises par Marlard dans son article et qui viennent du créateur français David Cage. Qui explique qu'il préfère écrire des rôles féminins parce que les femmes peuvent se battre, s'énerver très fort, être bouleversées et peuvent pleurer. Elles ont une palette d'émotions qui est plus large que celle des garçons. Et surtout, elles peuvent exprimer cette palette d'émotions alors que les hommes ne les expriment pas facilement en public. Argument qui peut être recevable et acceptable. En même temps, on va peut-être pas... engager la discussion là-dessus parce que sinon on n'a pas fini, mais c'est pareil, enfin ça retrace une socialisation d'expression des sentiments des filles et des garçons qui est super culturelle et des garçons qui pleurent, c'est avant, oui, certes, c'était peut-être moins accepté et ils étaient peut-être vus comme des tapettes s'ils exprimaient leurs sentiments, etc. Alors de moins en moins, mais c'est vrai que ça reste très genré comme remarque. Et David Cage prend comme exemple l'écriture du personnage de Kara. Donc là, c'est dans un court-métrage et pas dans un jeu vidéo. Donc il explique qu'il a eu grand plaisir à écrire ce personnage féminin. Et donc le problème que ça pose, donc jusque là qu'il ait pris plaisir à écrire un personnage féminin, tout va bien. Le problème que ça pose, c'est qu'il parle d'une, enfin le Kara, la Kara en question est une femme robot qui exprime qu'elle peut s'occuper de la maison, faire la cuisine, garder les enfants, organiser les rendez-vous donc de la personne de son partenaire. Si on peut appeler ça comme ça, et qui dit aussi « Je suis entièrement à votre disposition comme partenaire sexuel ». Et à la fin du court-métrage, on l'entend gémir et pleurer parce qu'elle est démembrée par ledit partenaire. Elle ne doit sa survie de femme robot qu'à la pitié qu'elle inspire qu'à la bonne volonté de son bourreau. Donc, personnage féminin, on est encore dans la représentation de femme-objet, parce que précisément c'est une femme-robot. Donc voilà, c'était deux citations que je voulais apporter à ce qu'avait dit, à ce qu'a dit Zab par rapport à l'article de Marlard.
Okay. Moi, j'ai une conclusion juste à tirer après, mais vas-y, je te laisse. Non,
je voulais faire la transition, donc vas-y, je t'en prie.
Je voulais juste revenir sur le fait que, bon, après, cette intervention sur Le sexisme dans la communauté et l'univers geek, c'est pas, enfin c'est beau d'en parler et de le constater. Après, comment l'expliquer? Je pense que Marlard en parle un petit peu dans son article. Elle essaie de l'expliquer aussi d'une certaine manière, sans l'expliquer directement et de manière très explicite pourquoi de tels phénomènes ont lieu, mis à part le fait que finalement c'est une industrie qui est basée sur un personnage mythique, enfin une cible mythique, un consommateur mythique de toute cette production à la fois des jeux vidéo, des animés, mangas et etc. Et donc sur la base de cette construction de cette identité mythique, donc de l'adolescent en rut, désocialisé, le no life par excellence, et qui fait rue de jeux vidéo, on va dire, qui donc a orienté finalement toute son industrie, mais au point de l'aliéner lui-même, d'aliéner jusqu'à la cible qui visait, quoi, je pense. Elle en parle donc quand elle parlait de l'hyper virilisation de ses personnages. Moi, j'aimerais, je sais pas si je vais pas commencer à théoriser et à créer ma théorie, mais je pense aussi que c'est des phénomènes qui peuvent provenir du fait que tout simplement c'est une culture, c'est une identité en fait, l'identité geek qui s'est construite à partir de ces mêmes représentations sociales, donc de la personne qui est complètement asociale. Est matérialisé dans le garçon adolescent, on va dire, et qui finalement arrive pas à sortir de cette identité. Et comme elle s'est créée, je pense que t'en parlais tout à l'heure, comme elle s'est créée par opposition, vu qu'elle était, c'est une figure qui est en rejet, c'est la figure de l'outsider aussi, je pense, d'une certaine manière. Parce que c'est des personnes qui ont été autrefois, qui sont beaucoup moins maintenant, parce qu'il y a une réhabilitation, je pense, de l'identité, mais qui ont été vraiment, qui font partie de ces marginaux, de ces rejetés de la société. Et du coup, et de ce fait, qui s'est construite donc à partir de certaines propriétés donc dont on vient de parler, et qui a du mal à
s'élargir à
et à dissoudre et à dissolver, je sais pas comment dire ça, cette identité pour pouvoir rendre l'accès possible à d'autres personnes qui répondent pas à ces critères de catégorie, quoi.
Ouais, parce que c'est une communauté qui s'est formée sur le mode de l'exclusion, parce que ce sont des personnes qui ont été exclues eux-mêmes qui ont été exclus socialement, et du coup qui reproduit ce schéma d'exclusion avec les femmes, là en l'occurrence.
Et est-ce que il y a pas aussi il me semble que je sais pas si vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais l'idée que le milieu informatique et le milieu de l'informatique, du jeu vidéo, est déjà un milieu très genré, parce que c'est considéré comme relatif au pôle de la raison et au pôle masculin en fait, finalement, et du coup qui nécessairement exclut toute féminisation, enfin je veux dire pas nécessairement, pas de façon complètement déterminante, mais étant donné le côté super genré, il y a, enfin ça produit pas nécessairement une idéologie, mais ça peut s'il y a en fait finalement mixité, etc., dans le milieu, ça peut peut-être produire certaines réactions, je sais pas. C'est une question en fait, j'en sais rien, mais
non, on n'en a pas parlé, c'était un autre article dont j'avais envie de parler juste après, mais qui là concerne plutôt les catégories de métiers. Donc c'est un article qui explique qui s'appelle Effet Durant, le paradoxe des études d'informatique. On vous mettra le lien sur la page Facebook. Donc, qui explique comment finalement, la construction sociale de l'image de la femme et la construction sociale de l'image des sciences de d'autre part, et donc de tout ce qui est aussi informatique, se sont construites et articulées finalement sur une sorte d'incompatibilité due au fait que la femme son image sociale, disons, est construite sur certaines propriétés qui sont par exemple la sensibilité, l'émotivité, la compréhension, blablabla, et une forte compétence, on va dire, émotionnelle, qui sont complètement qui sont exclus de toute potentielle recherche scientifique, qui elles sont basées sur une certaine forme de, enfin un objectivisme qui finalement est tout à fait relatif si on recontextualise les découvertes scientifiques de manière générale, mais donc qui est basé sur cet objectivisme et sur cette raison donc et qui donc est incompatible avec la femme. Et ça c'est autre chose, c'est la manière aussi dont finalement la société naturalise les rôles de la femme et de l'homme, donc naturalise un ordre genré de la société qui n'a rien à voir avec le biologique. Et donc dans cet article ils expliquent comment finalement ces images là produisent directement dans la mixité, la représentation des femmes et des hommes dans les métiers, ont un impact réel sur ça, en gros.
D'accord. Voilà. Ouais, c'est intéressant. Anaëlle, tu veux rajouter un mot ou est-ce qu'on passe à la suite?
Bon, on va mettre la chanson peut-être que tu avais prévu de mettre, Suzanne, de Nina Simone.
Non, en fait, on avait changé et en fait, on s'était décidé pour Aretha Franklin, Respect, juste avant de passer à une critique du film Angela Davis. Voilà. Voilà, on est de retour et du coup là on passe direct à la chronique ciné et pour commencer je vais parler du film Free Angela and All Political Prisoners de Shola Lynch qui est donc qui a été qui est paru en avril 2013, donc il y a un mois. Et qui en gros retrace le parcours politique de Angela Davis et plus particulièrement en fait le procès le procès en fait qui a suivi son incarcération. Donc en fait l'idée de ce film, enfin l'idée de ce soir plutôt, c'était de faire plus une sorte de retour sur le parcours d'Angela Davis via le film, en fait le visionnage du film, vu que ça nous a permis de voir un petit peu finalement ce serait plus genre sur le mode de monographique presque, parce que d'un point de vue esthétique le film ne porte pas un intérêt énorme, donc voilà, donc c'est plus il est intéressant plus d'un point de vue informatif, et donc c'est plus dans cette perspective là que je voulais en parler brièvement. Et donc voilà, en gros le film reporte le parcours d'Angela entre les années 69 et 74, et donc pour retracer un tout petit peu l'enfance d'Angela Davis et la situer un petit peu, enfin brièvement, Angela Davis, en gros, c'est une des figures importantes du black feminism et des mouvements d'émancipation des noirs américains. Et elle est également communiste, elle a été au PC, elle est marxiste, etc. Et en fait, elle a fait ses études, une partie de ses études en Europe, en rentrant aux États-Unis. C'est la manière dont le récit, dont le film, du moins, raconte tout ça. Par le biais de témoignages, d'interviews et d'archives. Et donc, en gros, lorsqu'elle revient, elle veut s'engager politiquement, faire partie d'un collectif, etc. Et voilà, ressent le besoin de lutter en dehors juste de son individualité. Et elle décide de militer au sein du Black Panther Party, dont tout le monde, je pense, enfin, dont la pas mal de gens, en tout cas, a entendu parler, je pense, et qui est donc un des mouvements, le seul en fait, mouvement noir révolutionnaire, puisque les autres mouvements n'étaient pas aussi radicaux. Et donc, en fait, elle a milité un peu au sein du Black Panther Party, mais elle a vite quitté le mouvement parce qu'en fait, parce qu'elle déplorait un peu la misogynie du mouvement, qui considérait de façon explicite ou implicite, j'en sais rien, mais en tout cas, qui faisait bien comprendre que les femmes n'avaient pas, enfin, à militer avec eux main dans la main, mais bon, c'était un petit peu plus des suiveuses. Bref. Et donc voilà, ensuite elle a voulu enseigner en fait au sein de l'université, donc elle a commencé un peu à donner des cours notamment sur les textes sur certains auteurs certains intellectuels, et elle a tiré foule, hein, parce qu'elle était déjà assez populaire, et en fait tout simplement le gouvernement lui a interdit de délivrer des cours parce qu'elle était déjà considérée comme une menace politique. Elle avait encore rien fait, hein, mais c'est un peu ça, hein, le parcours d'Angela Davis, c'est une suite de, comment dire, c'est quoi le terme? C'est une suite de, bref, j'ai pas le terme. Et donc en fait voilà, donc Edgar Hoover, qui était le chef du FBI en gros, disait que à propos du Black Panther Party, dont Angela Davis Edgar Hoover disait que donc Black Panther Party était voilà, le mouvement le plus menaçant pour la sécurité intérieure des États-Unis. Donc le fait qu'Angela Davis ait pu participer au Black Panther Party, ne serait-ce que quelques années, ça a contribuer à jeter le faisceau sur elle, quoi. Bref, et donc voilà, en fait brièvement, pour faire un retour sur le Black Panther Party très très rapidement, en fait l'État américain s'est pas mal focalisé sur le fait que le groupe était armé, mais qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est mes lunettes qui sont pas droites. Bon. Et donc voilà, donc c'est pour rendre le truc un peu plus ludique, parce que là c'est monographique, il est super tard, donc on va essayer de rendre un peu plus ce truc ludique et donner envie de connaître, de regarder le film et de s'intéresser à la personnalité d'Angela Davis, pardon, qui est vraiment assez impressionnante. Et donc pour retourner au Black Panther Party, le Black Panther Party avait principalement comme revendication, si on regarde son programme, des revendications pour le droit du travail,
pour l'emploi, pour lutter contre la ségrégation raciale, pour un certain nombre de reconnaissances, pour une certaine reconnaissance politique. Voilà, et donc finalement leur revendication était somme toute assez assez légitime, enfin voilà. Et et voilà.
Tu peux peut-être revenir sur cette espèce de conspiration qu'on traite dans le film et qui a été menée autour d'Angela Davis.
Ouais, carrément. En fait, l'idée, c'est que elle a été très vite. En fait, elle a été accusée par le FBI et par le gouvernement américain, recherchée par le FBI et accusée par le gouvernement américain d'avoir fait pris parti à en fait l'assassinat d'un juge. Il y a eu une tuerie en fait lors d'un procès, justement encore une fois un procès pour des lié en fait toujours à des questions politiques au niveau conflit raciaux d'avoir en fait contribué à donner les armes, qu'elle aurait donné les armes pour ce drame là. Et en fait pour recontextualiser un peu Angela Davis, elle a étant engagée de cette manière en tant que communiste, en tant que femme noire déjà, ce qui n'était pas rien. Ce qui n'est toujours pas d'ailleurs, mais avait donc fait l'objet de menaces. De menaces par courrier, de menaces de mort, de menaces elle avait décidé de se protéger, enfin de prévenir, on va dire, une éventuelle attaque, tu vois. Et donc en gros elle s'est armée, elle s'est acheté des armes, et mais ça ne veut pas dire qu'elle les a utilisées pour la tuerie en question. Et du coup elle a été accusée de ça. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fui, elle a pas du tout elle s'est pas du tout laissée attrapée par le FBI, on va dire. Là, j'essaie de retracer un peu le film d'action, etc., mais en fait c'est très sérieux. Et voilà. Et en fait tout simplement, si on veut donner un, on se rend compte un petit peu comment dire, je sais pas, je dois avoir une tête bizarre parce que je crois que je suis en train de faire rire Zab. Une tête bizarre.
Non, vas-y, reprends avec ce truc.
Non, c'est pas grave.
Bon, reviens sur le procès peut-être et les questions que posait le fait que ce soit une femme noire, et les questions raciales qui sont liées à ce procès, et les différences de traitement dont elle qu'elle pointait du doigt vis-à-vis de la justice, donc il y a une différence de traitement en fonction de ton appartenance à telle ou telle communauté raciale ou sexuelle, entre guillemets.
Ouais. En fait oui, exactement. En fait, donc elle a fini par être donc attrapée, et donc elle a été isolée complètement par le gouvernement lors de son emprisonnement en tant que prisonnier politique. En fait, elle a été complètement exclue, mais elle a quand même, en fait, je fais juste un petit contexte juste avant le commencement du procès, elle a quand même eu une relation assez intime et intellectuelle avec un des prisonniers, George Jackson, dont elle partageait les opinions politiques, et qui était lui également militant au Black Panther Party, du moins l'ayant été. Et en fait, on va lui reprocher ça lors du procès, c'est-à-dire qu'on va l'utiliser contre elle. En fait, on va l'avocat de l'accusation va ressortir les lettres et dire que Angela Davis, ayant partagé cette correspondance en fait passionnelle et politique en même temps, enfin c'est un mélange des deux, mais il ressort ces extraits là elle a nécessairement été influencée politiquement par cet homme, et du coup c'est une preuve soi-disant qu'elle aurait participé toujours à l'assassinat du juge.
Et en fait, contre toute attente, Angela Davis retourne un peu l'argumentaire en disant que c'est ici la preuve d'une misogynie bien explicite, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, les femmes sont toujours ramenées, ne peuvent pas être responsables et autonomes et mener une action par elles-mêmes. Mais qu'elles sont nécessairement sous l'emprise de la passion et sous l'emprise d'un homme. Et donc elle renverse un peu le rapport de pouvoir entre guillemets. Enfin, du moins, elle renverse le discours, la rhétorique. Bon, je vais pas tout faire le procès en détail. Un dernier truc, c'est le fait que elle ait fait appel donc à un avocat noir pour précisément visibiliser l'enjeu politique de ce procès, c'est-à-dire que finalement il était aussi question finalement d'oppression raciale et il est question de ségrégation raciale, puisque ce sont ce que montre le parcours d'Angela, ce que montre Angela Davis et ce que montre son militantisme et son activisme, c'est qu'il y a une profonde injustice qui opprime en fait les noirs américains, les personnes de couleur, puisque elles sont leur justice rarement leur est faite et qu'en gros ils sont souvent incarcérés pour des broutilles entre guillemets et que le monde de la justice est profondément blanc en fait. Donc voilà. Et elle a fini par être libérée parce que il y a eu un grand mouvement qui a été lancé pour sa libération. Et donc ça a fini par faire pression, etc. Puis bref, le procès s'est terminé heureusement pour elle. Voilà. Et donc elle lutte encore aujourd'hui. Hein, elle est encore vivante. Enfin, elle témoigne dans le film aujourd'hui. Et elle est pas mal engagée auprès des mouvements abolitionnistes des prisons. Et voilà. Donc ça, c'était un peu pour résumer le film. Et du coup, bah, je sais pas ce que vous en pensez, Anaël, Zab, si vous avez genre un commentaire là-dessus.
Moi, c'est plutôt une question, parce que tu viens de dire qu'elle avait été libérée parce qu'il y avait des mouvements qui étaient pour sa libération, etc. Je voulais juste savoir si je sais pas si c'est dit dans le film ou pas, ou savoir ce que vous en pensez, vous, parce que ça peut aussi poser un peu de problème, savoir si le fait qu'elle ait complètement retourné la rhétorique de l'accusation, en fait, est-ce que ça n'a pas aussi joué en faveur de sa libération, parce que si elle a démonté toute la rhétorique de l'accusation en montrant justement que c'était une justice plutôt raciste et que on la faisait passer pour victime d'une passion amoureuse et donc sous l'emprise d'un homme pour avoir commis ce meurtre qu'elle n'a pas commis d'ailleurs, est-ce que ça a pu jouer et que la justice a fait passer ça, enfin je suis pas sûre que la justice en ait parlé d'ailleurs parce que ce serait un peu limite, mais est-ce que c'est vraiment l'opinion publique qui a permis sa libération, ou est-ce que c'est aussi la plaidoirie de la défense?
Ouais. Oui, t'as raison de poser la question. C'est vrai que j'étais un peu floue dans ce que je disais à ce moment-là. Enfin, concrètement, la cause de l'issue heureuse du procès, c'est difficile vraiment de déterminer, parce que le jury ne dit jamais à quel point ils sont. Enfin, qu'est-ce qui a influencé leur décision, etc. Je pense que c'est un ensemble de contextes. Le fait qu'il y ait énormément de gens qui aient milité pour sa libération, il y avait vraiment beaucoup de mobilisation. Ça a à la fois contribué à accélérer le procès, du coup à accélérer aussi l'avancée du procès. Ça a été vachement, ça a quand même pas mal profité. Angela Davis. Et ensuite, mais ensuite, c'est clair que le déroulement du procès a énormément joué. Les arguments avancés étaient pas du tout pour rien. Enfin, au contraire, c'est ça aussi qui a certainement décidé le jury. Après, moi, j'y étais pas. Et concrètement,
oui, bien sûr.
Non, bien sûr. Non, mais je veux dire, ta question, je la comprends. Mais c'est juste, en gros, c'est certainement les deux, ou voilà quoi. Mais ouais.
Ok.
Pardon. En tout cas, ça nous renvoie, je pense, à une espèce de mauvaise habitude qu'ont autant les hommes que les femmes d'ailleurs, d'essayer de mettre en relation un comportement quand il provient d'une femme avec donc là en l'occurrence une passion, que ce soit pour l'homme avec qui elle a échangé des lettres ou pour une cause qu'elle a essayé de défendre, mais donc de mettre en relation un comportement avec soi une certaine propriété disons passionnelle ou affective ou émotionnelle, mais en tout cas une espèce de mauvaise habitude que beaucoup de gens ont d'essayer de dépolitiser ou d'enlever de la valeur, de dévaloriser ou de déposséder de son pouvoir certains comportements et revendications qui émanent de des femmes en leur attribuant, enfin en trouvant des liens qui en plus par ailleurs sont généralement naturalisés et biologisés, enfin bref.
Ouais, juste.
Je sais pas si je suis très claire.
Bah si, enfin juste pour rebondir sur ce que tu dis, c'est aussi une manière d'essayer d'expliquer la politisation d'une femme black en l'occurrence, parce que enfin on essaie d'expliquer et de rationaliser le fait qu'elle soit politisée et active, alors que il y a pas forcément d'explication, enfin. Par rapport au fait qu'elle soit noire et qu'elle soit femme, elle avait déjà, par ces deux faits-là, peut-être juste assez de raisons pour se politiser toute seule, enfin, sans être sous l'emprise ni des Black Panthers, ni d'un homme en particulier. Ouais, c'était juste pour
l'idée
avant que.
Ouais, non, c'est oui, je suis d'accord avec vous. Enfin, oui, je trouve c'est clair. Je sais pas si on.
Non, ben on va passer au deuxième film, pardon, dont tu voulais parler, qui s'appelle
Paris is Burning, ouais, de Jenny Livingston. Donc en fait, Paris is Burning, il est paru en 1990. Et le but de, enfin, ce dont je voudrais parler, c'est essayer d'articuler, enfin, je vais essayer d'articuler plusieurs choses. Déjà présenter un peu brièvement le film et ensuite mettre en relation les critiques qu'ont faites Bell Hooks, qui est une féministe nord-américaine, et Judith Butler, qui est une féministe, enfin que queer, lesbienne, blanche, et qui ont toutes deux donc parlé de ce film-là, et donc qui ont adressé des critiques assez virulentes, en particulier Bell Hooks. Donc voilà. En fait, en gros, Paris is Burning, il est paru en 1990, et il parle, en fait, il porte sur les balles où vont les gays noirs et femmes trans transgenres et transsexuelles noires qui donc voilà fréquentent ces balles à Chicago et qui en fait ont comme et c'est ça le fil du film, ont comme principal idéal d'atteindre comme fantasme en fait d'atteindre une féminité idéalisée qui est en fait une féminité blanche qui est la féminité de Marilyn Monroe etc. enfin de et puis des top modèles américaines blanches et donc en fait Bell Hooks adresse deux critiques à ce film. C'est d'abord le fait que cette idéalisation de la culture blanche n'est jamais remise en question, qu'elle n'est jamais questionnée, qu'elle n'est jamais critiquée en fait par la réalisatrice. Ensuite que la réalisatrice lesbienne blanche que son point de vue en fait n'est jamais visibilisé en tant que tel. Et qu'en fait finalement il est montré comme enfin le film est réalisé comme si en fait le ou la réalisatrice incarnait un point de vue neutre et faisait une sorte de documentaire ethnographique qui avait vocation d'être un peu universelle ou du moins d'être neutre, voilà, de pas être politique, alors que finalement le point de vue la position blanche qui nécessairement voilà oriente un point de vue n'est pas du tout visibilisée. Et ensuite le deuxième aspect, c'était la critique du travestissement auquel je reviendrai tout à l'heure. Donc je vais tout de suite juste balancer un extrait du film que je traduirai juste après et ensuite on va passer un petit peu à la critique. Them to
this circuit. It's like crossing into the looking glass in Wonderland. You go in there and you feel 100% right.
as a bit being gay.
And that's not what it's like in the world.
It's not what it's like in the world. It's not what it's like in the world. You know, it should be like that in the world.
The society, they football, going to a football game, basketball, that's their... Now they can't.
Because I never felt comfortable being poor. I just don't. Or even...
As we're going to get to all of that fame and fortune and stardom and spotlights.
I'd always see the way the rich people lived, and I'd feel it more, you know. It would slap me in the face. I'd say I'd have to have that because I never felt comfortable being poor. I just don't. Or even middle class doesn't suit me. Seeing the riches, seeing the way people on Dynasty lived, these huge houses. And I would think these people have 42 rooms in their house. Oh, my God, what kind of a house is that? And we've got three. Why is it that they can have it and I didn't? I always felt cheated. I always felt cheated out of things like that.
Ouais, désolé juste pour le petit problème technique. Enfin, le dernier extrait, c'était bon. Donc, en fait, pour traduire rapidement, donc c'est Pepper Labisha qui dirige une des maisons en fait où ont lieu les balles et qui dit, je traduis rapidement, j'ai toujours vu la façon dont les gens riches vivaient et je vois. Je vois plus que tu sais, et ça me frappe au visage, ça me donne une claque au visage, et à chaque fois je me dis je dois avoir ça, il faut que j'ai ça, parce que je me suis jamais sentie bien à être pauvre, voilà, c'est tout. Et puis et même d'ailleurs de faire partie de la classe moyenne, ça ne va pas non plus. Voir les riches, voir la façon dont les gens sur la dynastie vivent, il dit le mot dynastie, toutes ces énormes maisons, et à chaque fois je pense ces personnes ont 42 chambres dans leur maison et nous on en a 3. Donc pourquoi est-ce que eux ils en ont et moi j'en ai pas? Et je me suis toujours sentie flouée, et je me suis sentie toujours flouée dans ces scénarios-là. Et voilà, donc en fait, si même il n'évoque pas clairement, explicitement le fait que ces personnes riches sont des personnes blanches, le film le montre en fait en projetant les photographies en fait de magazines. De couverture de magazine, où on voit voilà des couples blancs dans une cuisine ou en train de danser ensemble, enfin voilà ce genre de stéréotypes idéalisés et de luxe qui est un des privilèges de la classe blanche Voilà, et en fait dans le chapitre dans son livre Black Looks, Race and Representation, Bell Hooks, dans le chapitre Is Paris Burning, elle dit le film invisibilise en fait l'hégémonie blanche et que c'est selon elle vraiment un problème, puisque la présence de Jenny Livingston en tant que femme blanche et lesbienne est complètement absente du film, et donc le fait que elle représente la blackness, en fait c'est des mots pour traduire en français c'est difficile, whiteness c'est la blanchitude, blackness
blackitude peut-être, je sais pas.
Ouais, en fait ouais,
c'est difficile à traduire.
Ouais, mais... c'est un peu difficile à traduire, mais bref, mais qu'en fait elle ne visibilise donc pas la blanchitude en tant que culture, mais la maintient dans une position impérialiste qui n'est pas du tout en fait questionnée. Et en gros, elle s'approprie un peu une sous-culture, quoi, une subculture, et c'est ça qu'elle lui reproche, c'est-à-dire de venir avec ses gros sabots dans ce monde et de pas du tout remettre en question sa venue, enfin ce projet, quoi. En fait,
je comprends pas trop. Est-ce que c'est le fait que finalement, filigrane, on puisse comprendre que l'idéal qui est recherché par donc ces homosexuels et transsexuels noirs soit un idéal qui est celui de ces familles riches bourgeoises blanches, Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est le fait que qu'il y ait cet idéal finalement, mais qu'il soit pas montré, enfin qu'en gros dans le film il soit pas montré explicitement, que finalement le fait que ce soit cet idéal que les personnes du film cherchent à atteindre, ils montrent pas que c'est le fait d'une, enfin c'est le fruit d'une certaine forme de domination raciale et culturelle.
Ouais,
c'est
en fait,
ça qu'elle remet en question.
Ouais, exactement. Enfin, c'est à la fois ça. En fait, c'est deux choses. C'est à la fois le fait que il y ait peu, exactement, de critiques de l'idéal féminin blanc, qu'il y ait peu en fait de déstabilisation de cet idéal et de remise en question, remise en contexte en fait de cet idéal. Pourquoi en fait on parle d'idéal féminin blanc avant tout parce que il finalement la minorité noire en fait est quotidiennement submergée de représentations idéalisées de la blanchitude et que qu'il leur est impossible de trouver en leur dans leur corps, enfin dans le fait d'être noir, une incarnation de la beauté,
oui,
etc.
Ça,
voilà.
Ça représente quelque chose d'inatteignable.
Ouais, finalement. Voilà, c'est ça. Ça, c'est le fait qu'en fait ces hommes gays et ces femmes trans, en fait en idéalisant la féminité blanche, d'une certaine manière reproduisent une forme de haine de soi, en fait, enfin de haine d'être noir, et voilà. Et ça, c'est un peu ce que critique Bell Hooks, qui cependant, je pense, est un petit peu présent dans le film quand même, dans l'idée que en gros les jeunes sont conscients en fait de ça, du fait qu'ils idéalisent quelque chose qui ne fait pas partie de leur monde en fait. Ils sont conscients de ce gap en fait, mais c'est vrai que c'est peu contextualisé en fait par la réalisatrice. Donc voilà, je mesurerais peut-être un tout petit peu les critiques, mais après je comprends carrément enfin ce point de vue là. Et ensuite, la deuxième chose qu'elle critiquait en fait dans ce que tu me demandais, Zab, c'était le fait qu'elle, je sais plus où je voulais en venir, qu'elle venait en fait que à la fois donc elle ne questionnait pas cette idéalisation de la féminité, et qu'en même temps elle ne se visibilisait pas à l'écran, et donc du coup on ne la voit pas à l'écran une seule fois, on l'entend éventuellement poser des questions, mais on ne la voit pas à l'écran dire en fait on voit pas son corps quoi concrètement, on ne sait pas ce qu'on pense, mais d'une certaine manière elle ne montre pas que le point de vue est situé. Donc c'est toujours cette question du point de vue situé en fait qui est un peu récurrent dans les théories féministes quoi, l'idée que en tant que personne blanche c'est important de visibiliser en tout cas au moins sa position privilégiée si tu abordes un sujet dont il est sûr que tu ne partages pas le vécu ou que tu n'as pas partagé le vécu, etc. Donc voilà. Je vais peut-être pas m'éterniser là-dessus, il est déjà super tard. La deuxième chose que Bell Hooks mentionnait, c'était donc ça, je suis un petit peu moins, je suis un peu plus réticente, ouais, un peu moins d'accord. C'est sur la question du travestissement. En gros, elle dit brièvement dans *Is Paris Burning* que le travestissement, puis elle fait toute une théorie autour du travestissement, le travestissement de ces hommes qui se travestissent en femmes, donc cette féminité drag, ces drag queens, elle voit en fait en elle une nouvelle forme d'oppression des femmes par le fait que elle véhicule qu'elle ridiculise en fait la féminité et qu'elle est le synonyme d'une forme de haine des femmes en fait. Et d'ailleurs, elle ne parle pas de féminité, mais elle parle d'une autre forme de masculinité, c'est-à-dire qu'elle n'accorde pas à la féminité drag son statut de féminité quoi. Donc c'est aussi une façon finalement à mon avis. Enfin, en fait, je dis à mon avis, c'est pas mon avis, faut quand même que je le précise. J'ai lu ça dans un extrait de C'est Corps qui compte de Judith Butler, mais en fait, ça m'a pas mal, pas mal frappé, parce que c'est vrai que du coup, c'est une façon un peu de naturaliser le genre, enfin, en tout cas, de le ramener nécessairement à la classe homme et femme en tant que classe biologique, et à dire que toute, que la féminité est quelque chose, une propriété des femmes bio,
et pas des femmes et pas des femmes trans ou des et donc d'autoriser une lecture assez essentialisante à mon enfin voilà donc
ouais en fait elle nie comme par ce commentaire la possibilité de multiplier les genres et elle reproduit le schéma classique genré masculin féminin et du coup enfin elle dévalorise aussi toute la personnalité des drag queens ou des c'est ça en fait
ouais c'est ça ouais
ok
ouais carrément
vous en ouais ouais non en fait non mais en fait je suis pas sûre d'avoir tout à fait bien saisi le sens de sa critique elle s'associe quand même à la théorie de Judith Butler du genre comme performance ou pas
Bell Hooks ouais. Pas du tout enfin elle mentionne un peu
du coup je trouvais ça mais en fait ça me en fait je trouve que c'est un peu incompatible ce genre de critique avec justement la théorie butlérienne si on peut dire ça comme
ouais.
Ça.
Ouais, c'est compatible.
Je pense, je sais pas, tu peux peut-être toi tu t'y connais un peu mieux mais j'ai l'impression que c'est un peu incompatible si on considère que le genre c'est une forme de performance et de
construction.
Oui, voilà. Plutôt que quelque chose de biologique, je trouve que c'est une critique qui est complètement incompatible avec la théorie de Butler ou je me trompe je
sais pas. Ah non, mais carrément. Mais en fait, il me semble qu'elle se contredit d'ailleurs un peu dans son article ou alors j'ai pas complètement compris parce que au début, elle dit que justement le travestissement est un moyen de déstabiliser le genre.
Ouais, de subversion.
Et donc elle retrace très brièvement, hein, en quelques lignes vraiment, l'histoire du travestissement. Enfin, non, plutôt la critique, les théories féministes autour du travestissement. Enfin, en une phrase plus ou moins, en disant que voilà, elle visibilise la construction précisément. Enfin, le travestissement visibilise la construction et du coup.
Enfin, le caractère constructif, on va dire, du genre.
Voilà, quoi. Exactement. Et du coup, dénaturalise. Enfin, contribue à voilà à montrer en tout cas que la naturalité présupposée du genre des genres et de toute façon voilà pas originale quoi enfin n'est pas naturelle justement la dénaturalise donc non en fait elle en parle au début et puis ensuite elle critique les pratiques drag queen en fait en particulier parce que elle y voit une forme d'appropriation du territoire des femmes quoi
d'appropriation excuse-moi je te coupe d'appropriation illégitime du coup pour le coup
ouais appropriation illégitime et puis en fait de manifestation d'une haine des femmes d'une haine de des femmes qui en fait est très très problématique de dire ça puisque c'est aussi lié la question finalement de la féminité des hommes à des enfin c'est un vieil argument homophobe aussi quoi finalement de dire que même si c'est plus lié à la question trans mais il y a certainement aussi un vieux fond homophobe dans l'idée qu'il y a dans l'homosexualité une origine une cause dans la haine de l'autre sexe qui du coup entraînerait en fait une pratique avec le même sexe ou un truc comme ça et qui du coup naturalise l'hétérosexualité aussi quoi donc
Ouais non, ouais, je voilà. comprends ce que tu voulais dire.
Mmh. Ouais, donc là on a bien parlé, je pense. il était question d'un troisième film, mais on va peut-être achever là-dessus parce que là il est un peu tard. Ça fait quand même 1h30 qu'on parle. Donc soit on en reparlera dans une prochaine chronique cinéma ou voilà. Donc pour conclure très brièvement, Paris. Après on passera à l'agenda de Lille et de féministe lillois. On commence un petit peu à fatiguer toutes. Donc en gros là on vient de parler de Free Angela and All Political Prisoners de Shola Lynch qui est paru il y a un mois et de Paris is Burning de Jenny Livingston que j'ai en fichier donc enfin que j'ai en film donc si jamais vous êtes intéressé je peux vous le prêter donc là je vais lancer For Today I Am a Boy d'Anthony and the Johnsons et on revient tout de suite après pour l'agenda de la semaine.
One day I'll grow up, I'll be a beautiful woman. One day I'll grow up, I'll be a beautiful girl. One day I'll grow up, I'll be a beautiful woman. One day I'll grow up, I'll be a beautiful girl. But for today, I am a child. For today, I am a boy. For today, I am a child. For today, I am a boy. One day I'll grow up, I feel the power in me. One day I'll grow up, of this I'm sure. One day I'll grow up, I'll know a womb within me. One day I'll grow up, feel it full and pure. But for today, I am a child. For today, I am a boy. For today, I am a child. For today, I am a boy. For today, I am a child. For today, I am a boy. For today, I am a child.
Alors, tout de suite, pour passer à l'agenda, mais de manière très rapide. Donc, cette semaine, donc c'est jeudi 30 mai, à l'écart, donc c'est rue Jeanne d'Arc. Il y a le lancement d'un fanzine qui s'appelle Fallop, donc qui a été décrit par une des fondatrices du fanzine comme dégenré et dérangé. Donc des illustrations qui nous promettent un certain angle de vue, je pense, qui peut potentiellement être féministe. Donc on vous invite à y aller, nous on y sera. Et le 1er juin à 15h, il y a l'organisation d'une espèce de séminaire sous forme de deux tables rondes. Donc c'est un événement qui est organisé par... par l'association des Tunisiens du Nord de la France, qui s'intitule « Suite des révolutions arabes, quelle participation des femmes au changement social ?» Donc la première table ronde traitera des combats qui sont encore à mener dans la transition démocratique pour l'égalité hommes-femmes, et la deuxième traitera de la participation des femmes à la construction du nouveau rapport économique suite aux révolutions arabes. Donc ce sont deux tables rondes qui vont donc se dérouler à la cave des Célestines, 84 rue des Célestines, à Lille, près de la rue de Gand, dans le Vieux-Lille. Donc on vous y invite, nous on y sera, en tout cas moi j'y serai pour ma part. Et Annaëlle peut-être avait un dernier événement à nous communiquer.
Oui, en fait, actuellement, dans le cadre du festival de théâtre Prémisse, donc qui a lieu en partenariat avec La Rose des Vents, le Théâtre du Nord à Lille et le Théâtre de l'Idéal de Tourcoing, il y a une pièce dont j'ai oublié le titre là actuellement, qui met en scène trois personnes complètement différentes qui tentent de se reconstruire dans un lieu totalement dévasté, sur une terre totalement dévastée. Et donc dans ces trois personnes, il y a une jeune femme qui est porteuse symbolique des combats féministes du XXe siècle, un jeune homme qui a apparemment un esprit un peu trop scientifique parfois, et un homme de 50 ans. Donc ces trois personnages... vont dialoguer pendant 1h20, donc c'est à la Rose des Vents. Il y a déjà eu une représentation ce soir, mais si vous l'avez raté, c'est pas grave. Il y en a une demain à 19h et une mercredi à 21h. Alors comme c'est du théâtre, c'est payant. Le tarif plein, c'est 12 euros. Ensuite, il y a 7 euros tarif étudiant, 5 euros tarif abonné et demandeurs d'emploi. Et pour ceux qui ont le pass théâtre jeune, c'est 3 euros la place. Voilà, donc c'est à la Rose des Vents.
Ok, bon bah je crois qu'on a terminé. On se retrouve dans 15 jours comme d'hab. On sera le 10 juin. Ouais. Et on aura une émission concoctée normalement assez sympa, vous verrez. Voilà, au 10 juin.
Et bonne soirée.
Bonne soirée, ouais.
Bonne soirée.